Vous écoutez Camille parle sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast se veut un endroit plein de douceur pour parler de la sexualité avec des informations de qualité et des outils concrets pour vous apporter votre dose d'inspiration pour votre intimité. Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Je suis enchantée de recevoir mon confrère avec qui j'adore échanger sur la thématique de la sexualité, Tristan Jean-Gène Villemer, sexologue clinicien et praticien en hypnose. Au quotidien, il propose des consultations individuelles et de couple, principalement sur les problématiques du vaginisme, des dyspareunies, de la douleur et des émotions. Sa démarche est intégrative. Il a du plaisir à mêler différentes approches pour un suivi global et respectueux de la personne. Avec Tristan, nous avions fait un live que vous aviez adoré sur Instagram sur sexualité et émotions. Et aujourd'hui, on va peut-être un petit peu en parler, mais ça sera surtout sur les représentations de nos organes sexuels, c'est-à-dire l'image, les croyances que l'on se fait de notre sexe ou et du sexe opposé et l'impact que ça peut avoir sur notre sexualité. Tristan, bienvenue.
Merci beaucoup Camille. J'adore ta présentation, bravo.
Ouais, je te voyais, t'étais absorbée, t'avais les yeux comme ça rêveur. Ouais,
j'ai l'impression que tu me racontais une belle histoire, je me suis laissé emporter.
J'adore. Voilà. Bienvenue. Bah déjà, ma première question, c'est quand on parle de représentation de nos organes sexuels, de représentation, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu définirais tout ça?
Le fait qu'une image ne peut pas être séparée d'une connotation personnelle. L'exemple le plus flagrant que je pourrais te donner, c'est qu'il y a une différence majeure entre, pour les personnes qui ont la phobie des araignées, par exemple, entre une araignée et... l'araignée en tant qu'objet, c'est-à-dire véritablement en tant qu'animal, en tant qu'objet, et les émotions que je vais projeter sur l'araignée, sous-entendu les peurs que je vais mettre dessus. Donc mon travail, moi tu vois par exemple avec des personnes qui vont avoir un vaginisme ou des dyspareunies, ça va être d'aller aussi aller voir l'objet phobique, et l'objet phobique souvent c'est le pénis, et pas n'importe quelle forme du pénis, le phallus, le pénis en érection, et l'idée c'est que ce n'est pas juste un organe, c'est une suite d'émotions, de peurs qui vont m'impacter personnellement. Donc c'est en ça que, pour moi, il y a toujours un lien entre une image et une représentation personnelle, donc émotionnelle.
Intéressant. Donc ouais, une représentation, c'est on voit une image, un objet, ou peu importe, hein, un insecte, un animal, une personne, et on y associe une émotion.
Voilà, on y associe une émotion, on y associe des représentations personnelles, et c'est d'autant plus vrai quand on parle des organes génitaux, parce que ces représentations ne sont pas anodines. On n'est pas en train de parler d'un verre ou d'un crayon. On est en train de parler de quelque chose qui va avoir un impact potentiellement de tabou, un impact politique, un impact en termes d'histoire de l'art, etc. etc. Donc, tout a une représentation, toutes les représentations ont un écho interne dans mon être intérieur, mais certaines représentations ont plus d'écho que d'autres. Voilà.
Mmh. Oui, comme tu disais, des représentations qui peuvent du coup être associées à quelque chose de phobique. Alors, tu parlais de vaginisme, de dyspareunie. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire pour les personnes qui ne connaissent pas ?
Alors, un vaginisme, c'est un trouble qui consiste en des contractions réflexes et inconscientes, c'est important d'insister sur le mot inconscient, du plancher pelvien qui empêche ou complique, parce qu'il y a des douleurs, tout type de tentative de pénétration slash circlusion. Les dyspareunies, c'est les douleurs ressenties au moment où il peut y avoir cette tentative de pénétration. Ça peut être masculine et féminine. Quand on parle de dyspareunie, on a tendance surtout à parler des dyspareunies féminines, mais il en existe aussi du côté masculin. Et bah, quand je te parle de tout ça, l'idée, c'est aussi de comprendre qu'il y a que l'image qu'on peut avoir des organes génitaux, par exemple, l'image que je peux avoir de l'organe de mon partenaire et de la représentation interne que ça va m'évoquer, ça peut aussi parler de l'image que je vais avoir de ma propre représentation personnelle, de mon organe génital à moi.
Est-ce que tu peux donner des exemples ?
Ouais. Oui. Je faisais un tour sur ton site il n'y a pas très longtemps et tu parlais de l'exemple du « tiens, je vois ma vulve dans mon miroir », l'exercice assez connu qui consiste à s'accroupir devant un miroir et essayer un peu de se mater pour voir un petit peu bah, comment on est fait de cette partie-là de notre corps, quoi. Eh bien, parfois, on se dit « waouh, j'imaginais pas ça », tu vois. Sous-entendu, ce n'est pas la représentation que j'avais. Ou alors, au contraire, je peux la voir et avoir une émotion désagréable du genre « oh, qu'est-ce que c'est moche !» Ou au contraire, avoir une émotion agréable du genre « bon, en fait, c'est plutôt sympa !» Ou je peux avoir une émotion qui va me dégager de l'excitation du genre « eh, en fait, je suis sexy !» Tu vois. Donc, ça peut être... voilà, ça, c'est la représentation interne. La représentation interne, ça nous parle de l'image qu'on a de soi-même, l'image que la société nous renvoie aussi. Le problème, c'est que les images sociales sont genrées et elles sont politisées, donc elles ne sont pas pareilles quand on est un mec ou une femme, en tout cas, comme on est identifié comme tel. Et puis, ça peut aller de la simple image de soi jusqu'à la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est le fait de se percevoir pas tel qu'on est. Par exemple, je sais pas, je pourrais prendre en exemple quelqu'un qui souffrirait d'un trouble du comportement alimentaire, qui serait excessivement maigre et qui se percevrait comme étant grosse en face du miroir. Alors que factuellement, la personne n'a que la peau sur les os, si je puis dire. Donc ça, c'est une dysmorphophobie. Et il y a des dysmorphophobies assez communes, notamment chez les garçons, où on peut se poser la question du « mon sexe est trop petit, mon sexe n'a pas la taille qu'il faut, mon sexe n'a pas la forme qu'il faut », parce que l'image sociale qu'on nous vend, notamment dans le porno, ce sont des sexes gigantesques et très puissants, quoi.
Ouais, donc là, c'est vraiment la représentation qu'on se fait. On se dit, en fait, un pénis dans ma représentation interne doit être gros, parce que c'est ce que je vois, doit être gros, doit être fort, puissant, en érection. C'est la représentation que j'en ai quand je regarde des films porno. C'est la représentation qu'on me dit, qu'on m'inculque. Et donc, du coup, quand je ne suis pas là-dedans, bah, ça vient chambouler un petit peu aussi, effectivement, l'image de cette définition-là, de ce qui est un pénis ou nos organes. Et là, pour revenir aussi sur l'exercice du miroir qui est... bah là, je parle pour la vulve, puisque j'avais fait cet exercice-là moi-même, de regarder sa vulve dans un miroir. Et la première fois que je l'ai fait, effectivement, l'émotion qui est rattachée, c'était de la peur et « qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?» Une sorte de « waouh, je découvre quelque chose pour la première fois et ça m'effraye ».
Ce qui est intéressant par rapport à ton témoignage, tu vois, c'est qu'il y a cet objet neutre, un organe, une partie de ton corps, qui peut être tout aussi neutre qu'un nez, qu'une oreille, qu'une bouche. Mais tu vas y plaquer des émotions, et tu vas y plaquer des émotions potentiellement parce que c'est la première fois que tu vois ça aussi bien. Potentiellement aussi parce que socialement, on n'a pas ou peu de représentations d'organes génitaux dit féminin depuis la sédentarisation. Il y a une fracture dans l'histoire de l'art à partir de la sédentarisation. Ce qui est surtout représenté, c'est dans l'histoire de l'art, ça va être des pénis, rarement des pénis en érection, sauf à des fins magico-rituelles, si je peux dire, rarement des testicules, par exemple, surtout des pénis, tu vois. Et en fait, tout ça, ça va avoir un impact sur la manière dont on vit nos organes génitaux. Et donc, toi, ce que tu as réussi à faire, et ce que je trouve génial, c'est que tu as réussi à passer du corps objet, cette vulve est extérieure à moi et je ressens des émotions par rapport à ça, jusqu'au corps sujet, où tu t'es dit, c'est une partie de moi, ce sont des émotions, voire même, pourquoi pas, je peux en jouir. Et là, tu te sujettises. Et là, tu as un pouvoir quand tu fais ça.
Et est-ce que le pouvoir, il est seulement quand je jouis, c'est-à-dire dans le sens, je le change en quelque chose de positif, ou est-ce que même si c'est quelque chose de négatif, genre, c'est terrifiant, est-ce que je peux quand même être sujette et actrice de ces représentations ?
Je pense qu'on est toujours acteur ou actrice des représentations qu'on a de nous, et que c'est tout l'intérêt d'un suivi thérapeutique, c'est qu'on peut aussi agir sur ces représentations. Et que le monde est aussi la perception qu'on en a, les autres sont la perception qu'on en a, donc si on modifie cette perception, on modifie notre manière d'aborder le monde. Donc si je modifie l'image que j'ai de moi, je me modifie moi, et je modifie jusqu'à parfois ma capacité à jouir, tu vois, ma capacité à vraiment aller vers une jouissance, vraiment une sorte d'extase, d'épanouissement personnel. Donc il y a effectivement une sorte d'empowerment extrêmement fort dans l'acte de jouissance.
Oui, ok, je vois, ouais. Dans le sens où, effectivement, en plus, une fois qu'on peut avoir ces représentations-là, les changer, on se les approprie, et on peut en jouir, parce que aussi ça nous donne cette confiance aussi en nous, si on change cette représentation-là interne en quelque chose de plus positif. Et ma question est, comment on peut changer justement ces représentations internes quand on... par exemple, on part d'une image, par exemple, là, si on prend ce cas-là, mais quand on part d'une image terrifiante, et ce qu'on peut voir dans le vaginisme, comme tu disais au tout début, avec cette image du pénis, du phallus qui est énorme et qui ne rentrera jamais, qui peut blesser, qui peut faire mal, comment on peut changer cette représentation interne ?
La toute première chose, c'est d'en prendre conscience, déjà. Prendre conscience de son système de croyance et de son système de représentation. Par exemple, moi je le répète plusieurs fois par semaine, mais j'essaye de faire comprendre que la représentation sociale, donc celle qu'on nous impose, elle est dirigée, elle est politisée. Aussi, le fait que, je pense que c'est la base de la base de la base, faire comprendre que la sexualité, elle est culturelle, elle n'est pas naturelle. Si elle n'est pas naturelle, elle est culturelle. Au même titre que c'est normal pour un être humain de manger, d'accord, mais de comment on mange, comment on cuisine, ça c'est culturel. Bah, comment on a un rapport sexuel, comment on aborde ses organes génitaux, ça c'est culturel aussi. Donc si c'est culturel, c'est politique. Si c'est culturel, c'est qu'il est question de la responsabilité parentale, de l'éducation nationale, de la société, des films, du porno. Et là, ça donne des images qui sont pas anodines, ces images-là ne sont pas neutres. C'est des images qui sont très dirigées. Le pénis est présenté comme étant une machine-outil. Moi, c'est comme ça que je le définis, le pénis machine-outil, tu vois. C'est-à-dire que le pénis est fait pour bander, il est fait pour durer longtemps et éjaculer à la fin, à un certain moment, d'une certaine manière. Où est l'orgasme dans le sens de plaisir, dans le sens de laisser aller ? Où est la jouissance masculine ? Elle est très peu représentée. Comme si la jouissance masculine, elle venait du fait de bander, ce qui est faux. Je peux bander sans jouir, je peux jouir sans bander.
Donc là, ça voudrait dire presque que la jouissance est reliée à quelque chose de mécanique, en fait. En tant qu'homme, quand tu parles de ces représentations, en fait, le pénis sert à bander, et quand il bande, c'est là où je peux jouir de ça. Mais c'est une jouissance, du coup, comme tu dis, objet mécanique.
Et une jouissance du pouvoir.
Et pas dans son ensemble de l'orgasmique, quoi.
Exactement, c'est-à-dire que c'est une jouissance de ma capacité à bander. Donc si je n'ai pas cette capacité à bander, je suis socialement pas considéré comme étant un homme. C'est un peu la critique qu'on pourrait me faire parfois, avec le fameux mot qui consiste à dire que t'es impuissant, ce qui est terrible. Tu vois, aujourd'hui on réfléchit à l'impact des mots, le mot impuissance, il est... il fait mal, voilà, et il est douloureux. Et c'est un peu ce que j'aurais à reprocher à une vision du sexe ou de la sexologie qui serait que technique, tu vois, dans lequel on pourrait pas mettre la place des émotions, la place de la question philosophique du pourquoi on fait les choses, etc. C'est qu'en fait, à la fin, on a des techniques robotisées du sexe. Et on a des pénis qui bandent, et puis on a des vagins qui sont censés être lubrifiés et ouverts, et c'est censé aller de soi. Et c'est là où, moi, ça me pose problème.
Oui, ça se comprend, parce que en plus, dans le début de la sexologie, et encore un peu, et encore beaucoup aujourd'hui, on est dans une sexualité fonctionnelle. On parle de la fonction sexuelle et des dysfonctions sexuelles. Le métier de sexologue se base, et s'est basé pendant longtemps, sur les dysfonctions sexuelles, les troubles érectiles, le trouble de la libido, les troubles de l'orgasme, une fonction. Et pas forcément, comme tu disais, sur quelque chose, sur qu'est-ce que déjà l'orgasme. Et on essaye d'en donner une définition scientifique qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Mais en fait, c'est là où j'adore nos échanges, c'est parce que pour nous, l'orgasme va bien au-delà et n'a pas une définition comme ça mesurable, en fait.
Complètement. Et pendant des milliers d'années, les personnes qui réfléchissaient à la sexualité, c'était des théologues, c'était des grands religieux ou des grandes religieuses ou des grands religieux. Et c'est plus le cas maintenant, ou c'est moins le cas maintenant, en tout cas en Occident. D'un côté, c'est tant mieux, parce que ça évite de tomber dans des systèmes de croyances qui sont parfois délétères, dans des systèmes de domination qui sont délétères. Mais d'un autre côté, il y a une des choses que pouvait apporter dans une dimension philosophico-spirituelle cette approche-là, c'est la dimension d'extase. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans la sexologie purement scientifique, qui consiste à quantifier, à mesurer, dans la dictature du chiffre, tu vois. Et on ne peut pas forcément avoir la part d'expérience personnelle, de développement personnel, d'intérêt, d'extase, d'orgasme, dans sa fonction la plus humaine, pour le coup. Et là, on quitte un petit peu le sujet de la représentation, mais ça fait partie de ça aussi, parce que la manière dont on réfléchit à la sexologie va jouer sur les représentations aussi qu'on a derrière, nous-mêmes en tant que professionnels.
Ouais. Et du coup, quels peuvent être les impacts, toi, que tu vois aussi dans ta pratique, l'impact de ces représentations que l'on se fait, hein, on a compris, elles sont internes, elles sont sociétales, elles sont tout ce que tu veux. Quels peuvent être l'impact des représentations de nos organes génitaux sur notre sexualité ?
Un petit test que je fais souvent, que tu dois bien connaître. Bonjour, on m'a dit que j'avais un vaginisme, je veux voir ce que je veux faire. Ah oui, ok, d'accord. Papier, crayon, dessinez-moi votre sexe. Alors, la phrase que je prononce, c'est « Est-ce que vous pourriez me dessiner votre sexe tel que vous le ressentez ?» Comme ça, je donne une phrase assez large. Et pas, je ne leur demande pas un dessin biologique. Je leur demande juste « Dessinez-moi votre sexe tel que vous le représentez. » Enfin, tel que vous le ressentez. Et là, j'ai la majorité du temps sur une feuille, dans un coin, à droite ou à gauche, une toute petite vulve, qui est composée de deux parenthèses les unes sur les autres, qui sont censées représenter les lèvres, sans poils. Donc une vulve qui est représentée parfois comme étant une vulve quasiment d'enfant. Quand je leur demande quel âge a cette vulve, est-ce que c'est une vulve d'adulte, une vulve d'enfant, même une femme de 30 ans pourrait me dire c'est une vulve d'enfant ou d'adolescente, par exemple. Donc tu vois, la représentation. Est-ce que je me représente, pardon, comme étant une adulte sexuée, une adulte active, une adulte jouissante? Ou est-ce que je n'ai pas cette représentation de moi? Est-ce que mon développement sexuel s'est stoppé à 15 ans parce que j'ai vécu un traumatisme, par exemple? Ou parce qu'on m'a pas donné les clés pour ce développement? Et puis après, je leur demande, est-ce que vous pourriez représenter le pénis de votre partenaire, par exemple, s'il y a un partenaire dans l'histoire? Et là, on me fait un phallus gigantesque sur la feuille, un truc énorme qui prend genre la moitié de la feuille. Je leur dis, il est en érection ou il n'est pas en érection? Parfois, il n'est pas en érection, donc elle redessine encore plus gros à côté. Et moi, je leur dis, mais excusez-moi, mais la première chose qui me vient, c'est ça rentrera jamais. Enfin, c'est pas possible, en fait. Et là, tu vois l'impact. Là, tu vois l'impact, tu vois qu'elles ont compris, tu vois qu'elles se sont dit, ah merde, en fait, je visualise la taille du pénis de mon partenaire comme étant gigantesque. ce qui est quand même rarement le cas. En moyenne en France, c'est quoi? Je crois que c'est une 13 cm, 14 cm. Ça ne m'intéresse pas trop ces trucs-là, mais je crois que c'est à peu près une moyenne.
Et non, moi non plus. Je ne suis pas dans les chiffres, mais c'est à peu près 13 ou 15 cm. 13, voilà. 13 peut-être. Vous ferez vos recherches Google. Nous, ça ne nous intéresse pas, la taille du pénis.
Et de l'autre côté, on a un orifice qui est représenté comme étant tout petit, quoi, comme étant minuscule. Et en fait, mon travail après, c'est d'essayer de leur faire comprendre que les représentations qu'on a vont avoir un impact sur la sexualité. Si on représente le pénis comme étant un objet sacro-saint, comme étant une machine-outil, comme étant un objet de domination, comme étant une lance qui est capable de me perforer jusqu'au ventre, tout ça, ce sont des citations de personnes que j'accompagne. Hein. La phrase qui me revient à chaque fois et qu'on a pu dire qui m'a choqué, c'est: quand il me pénètre, j'ai l'impression que c'est lui qui se fait une place à l'intérieur de moi. Et après, on a travaillé sur le mot circlure. Tu vois, un nouveau mot, un nouveau concept, une nouvelle image, une nouvelle représentation. On a travaillé sur le mot circlure et elle m'a dit: mais attends, quand je le circlue, c'est moi qui viens le masser en fait. C'est moi qui l'entoure, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est pas juste l'inverse du mot pénétrer, c'est ça va plus loin, c'est moi qui suis active. Je vais venir masser comme avec une main son pénis. Et moi, c'est ce que j'essaye de leur faire comprendre.
Et l'importance des mots, c'est ce que tu disais. Est-ce que tu peux dire ce que c'est circlure du coup et comment cette nouvelle représentation peut impacter positivement aussi la sexualité?
Circlure, c'est un néologisme qui a quelques années, qui a été créé par, je me souviens plus, rappelle-moi c'est qui.
Je sais plus, mais je sais que pour moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était avec Victoire sur les coups sur la table. Mais il y en a plusieurs. Faudra qu'on retrouve. Je remettrai dans les notes de l'épisode.
Et donc c'est un néologisme qui consiste à l'origine à décrire le fait de faire cercle autour d'eux. Donc ça peut dire, par exemple, je peux circler un verre, je peux circler un stylo si je le tiens dans ma main, je peux circler dans le cadre sexuel avec ma bouche, un pénis, un sextoys, un doigt, avec mon anus, avec mon vagin, je peux circler quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est l'acte de faire cercle autour d'eux à partir, en l'occurrence, d'un orifice dans le cadre sexuel, par exemple.
D'englober, alors là, je suis en train de regarder, du coup, parce que j'avais fait un post là-dessus, et j'essaye de retrouver justement la définition, parce que j'avais expliqué, voilà, circlusion. Et je peux dire, ouais, bah sur dans le livre les couilles sur la table de Victoire Tuallion, elle en parlait, mais c'est l'auteur Bini Adamsnack, qui est chercheuse sur les questions politiques queer, qui a notamment réfléchi à un terme plus positif, inclusif et dynamique pour remplacer le mot pénétration. Et donc c'est en 2016 que circlusion a fait son apparition avec son verbe circlure. Nous savons tout. Et donc le fait, là, comme tu disais, pour les personnes qui, par exemple, peuvent avoir cette représentation-là d'être pénétrées, qu'on prenne de la place dans leur corps, j'imagine que comme impact dans la sexualité, ça peut être des douleurs ou même ne pas avoir envie de sexualité, voire du vaginisme, tellement c'est effrayant, je veux ne laisser personne entrer dans ce temple qui est mon corps.
Exactement. Et les mêmes personnes peuvent avoir une représentation de leur vagin comme étant un tuyau rigide, tu vois, comme un tuyau d'arrosage rigide. Alors quand tu leur expliques que c'est pas comme sur les dessins de biologie, que les dessins de biologie ils ont faux, et puis que c'est un peu comme, je sais pas, si on mettait deux coussins les uns sur les autres. Donc ça veut dire que, certes il y a un orifice, mais après les organes à l'intérieur prennent de la place. Et en fait, quand tu circles avec ta vessie, tu circles avec ton utérus, tu circles avec toute ta chaîne musculo-ligamentaire, tu circles avec la totalité de ce que t'es, jusqu'au diaphragme, parce que la contraction d'un diaphragme peut avoir une conséquence sur la sensation de pénétration. Et évidemment, ce qui est délétère, c'est que si je représente ça comme étant quelque chose de petit, de rigide, de non souple, je parle de mon vagin, et qu'en face de ça, j'ai un gourdin monumental qui me fait peur, ça rentrera jamais, c'est logique. Et ça, c'est valable aussi pour les personnes qui ont des problèmes d'érection. S'ils visualisent leur pénis comme étant une machine-outil, le truc, il bande pas comme j'ai envie de bander, ça fonctionne pas, ça m'énerve, je vais m'agacer, je vais stresser, donc je vais rajouter de la charge mentale, de la pression, Et en fait, je vais encore moins réussir à me laisser aller et avoir une érection. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est terrible d'un côté comme de l'autre.
Ouais, donc on voit que sa représentation peut vraiment influencer sur la sexualité et son rapport à soi aussi, l'estime de soi, en fait, la confiance en soi, qui peuvent du coup, comme tu parlais, là, des troubles érectiles, jouer là-dessus, effectivement, sur cette capacité à avoir une érection, parce que je doute, parce que je me mets une pression, et la pression tue déjà toute excitation et tue toute confiance, ce qui fait que c'est difficile d'avoir une érection dans ces cas-là.
C'est ce que j'essaie de leur expliquer, que le pire ennemi de la sexualité, c'est le stress, que le meilleur ami de la sexualité, c'est la détente et le relâchement. Et tu vois, il y a aussi tout un mouvement sur le fait de muscler son périnée, d'être actif, d'être musclé de cette zone-là, etc. etc. Et pourquoi pas ? Tu vois, j'ai de la chance à ce niveau-là. Il y a quelqu'un qui a radicalement changé ma vision que je pouvais avoir du périnée. C'est ma compagne, elle est kiné, elle est spécialisée en rééducation périnéale. Elle fait pas de la rééducation qui est intrusive, elle fait de la rééducation avant tout pédagogique. Et je me rends compte du fait que, grâce à elle, hein, que la capacité de détente, elle est mille fois plus importante que la capacité de contraction. Et en fait, quand tu arrives à te détendre, mais tu passes des moments qui sont magiques, alors que socialement, on nous pousse à bander, à contracter, à agir. Voilà, il faut toujours muscler tout, il faut toujours... Enfin, il y a une obsession, quoi. Et en fait, ça fait partie d'une guerre des orifices, quoi. On devrait... Voilà, toutes les convoitises sont tournées autour de ça. Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est cette image qu'on peut avoir de nous-mêmes et aussi la violence qu'on peut s'imposer à soi à travers cette image. Et le manque de tolérance à soi, le manque de bienveillance avec soi-même. Et peut-être qu'après tout, c'est le propre de l'humain de s'insurger contre son image. Parce que les autres animaux non humains, ils s'insurgent pas. Un singe, il peut se regarder. Un singe non humain, il se regarde dans le miroir. Il sait que c'est lui. Est-ce qu'il s'insurge de l'image ? Est-ce qu'il va se dire « Oh, c'est moche, c'est pas esthétique, j'ai pas le nez qu'il faut, le cou qu'il faut, voilà, j'ai un morceau de gras à tel endroit. » Je pense pas qu'il fasse ça. Et cette dictature du je, du moi, de l'image de soi, de ce qu'on appelle en Occident l'ego, elle a commencé avec l'invention du miroir il y a 3500 ans. Et les réseaux sociaux font exploser ça, tu vois, cette image de soi, quoi, l'importance de l'image de soi.
Ouais, c'est super intéressant en plus avec ce parallèle avec aujourd'hui, concrètement, actuellement avec les réseaux sociaux. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport au périnée et à cette injonction à ce qu'il soit tonifié. Mmh. Or, nous savons que dans la sexualité, un périnée hypertonique peut créer des douleurs, peut créer des dyspareunies et du vaginisme. Et en fait, on a toujours cette peur d'avoir justement le vagin trop large, qu'on perde en sensation, que ça devienne trop élastique. Et en fait, ma kiné me disait qu'en consultation, elle a une majorité de femmes qui ont en fait finalement un périnée bien tonique, mais qui ont du mal à prendre conscience pour venir le détendre. Et moi, je suis dans ce cas-là, exactement, dans ce cas-là, après accouchement, un périnée plutôt tonique, et on peut voir qu'effectivement, ça peut créer des douleurs dans la sexualité, donc l'importance d'apprendre à aussi venir détendre ce muscle-là. Or, dans notre société, tout doit être tonique, et là, même pour les femmes, hein, c'est souvent, il faut rentrer le ventre, avoir le ventre plat, et comment on fait pour avoir le ventre plat ? On le contracte sans cesse, et en le contractant sans cesse, le périnée est aussi contracté. Et donc, c'est de venir déconstruire aussi toutes ces représentations-là de ce qu'est le corps d'une femme et de se donner cette liberté de se réinventer une image à soi qui est complètement différente de ce que la société nous impose et qui peut nous faire, en fait, et qui nous fait généralement aussi du mal.
Complètement, sur le périnée trop tonique, moi, je dois avoir entre, disons, 5 et 10 personnes par semaine qui ont des problématiques de dyspareunie ou de vaginisme. Donc, c'est vraiment... gros pourcentage de mes accompagnés. Dans tous les cas, il y a des problèmes d'hypertonie. Dans le sens où à chaque fois, le périnée est trop tonique, à chaque fois, on a du mal à le détendre. Et je dirais que ça va un peu plus loin. Il y a aussi une visée qui est politique et l'impact du patriarcat aussi derrière. Parce que si je ne suis pas tonique, je ne vais pas serrer le pénis de mon partenaire. Mais si je ne serre pas le pénis de mon partenaire, qu'est-ce qui se passe ? Il ne va pas avoir de plaisir, soi-disant. C'est ce qu'on imagine, c'est l'image sociale qu'on représente et tous les délires qu'on peut avoir, qu'on trouve aussi sur beaucoup de sites porno, avoir un vagin serré, avoir un vagin... Tu te souviens l'influenceuse qui avait parlé de vagin de, oui, de jeune fille ou de petite fille, qui elle-même d'ailleurs a dû se faire manipuler par un gars qui a dû gagner beaucoup d'argent derrière et qui est le gynéco en chirurgie esthétique. Là. Tout est fait pour faire croire aux femmes cis-hétéros, en l'occurrence en particulier, qu'il faut qu'elles soient plus toniques, il faut qu'elles soient plus serrées pour faire du bien à leur partenaire. Et je pense, ma conviction personnelle à ce sujet-là, je pense que ça vient d'un manque d'éducation de sensorialité des pénis masculins. Parce qu'en fait, les mecs se masturbent toujours de la même façon depuis qu'ils sont gamins, tu vois. Quand à 10, 12, 13, 14 ans, quand tu commences à te masturber, tu te masturbes avec ta main. Et masturber un pénis avec sa main, c'est plutôt simple. Tu fais des allers-retours, tu serres. Et donc, tu finis par éjaculer en faisant ça. Donc, c'est un peu ta norme sexuelle, c'est d'être serré, de faire des allers-retours et d'éjaculer. Donc, il y a quoi ? Il y a érection, et puis après, il y a pénétration, éjaculation, résolution. Quoi. On en revient à cette phrase sexuelle, à cette grammaire sexuelle qui est simple. C'est un théâtre simpliste et politiquement dangereux aussi derrière. Parce que ça pose la question de la domination masculine. Et de l'autre côté, on va avoir des personnes qui vont se dire « Bon, moi, il faut que je sois serrée, il faut que je sois étroite, il faut que je sois... » Surtout en post-accouchement, par exemple, le fameux point du mari, etc. Enfin, tout est fait pour nous faire croire que plus c'est serré, mieux c'est. Et c'est faux, parce qu'un mec qui apprend à se détendre, qui apprend à ne rien faire dans la sexualité, à ne pas être dans le faire, qui apprend à être dans le laisser-aller, qui arrête de bouger, de bouger ses fesses, de pénétrer, de machin, juste, il arrête, quoi. Je sais pas, limite, si c'est consenti, on l'attache, on lui met une culotte dans la bouche, et puis il arrête de bouger. Mais voilà, tu m'as compris le principe, c'est vraiment, voilà, on se détend, on se relâche. Quoi.
Consenti, on a bien dit. Hein.
Consenti. À ce moment-là, cet homme pourra ressentir des sensations et atteindre l'orgasme, et arrêter d'être dans... Enfin, atteindre une jouissance et arrêter dans le pénis machine-outil. Et à l'inverse, de l'autre côté du miroir, tu vas avoir des petites filles qui se masturbent avec une masturbation extérieure, clitoridienne, des jeunes ados qui se masturbent de plus en plus avec une masturbation clitoridienne. Le clitoris, c'est le pénis, c'est la même chose, hein, un pénis, c'est un clitoris. Donc en fait, on masturbe le même organe, chacun de notre côté. Moi, je masturbe mon pénis, moi, je masturbe mon clitoris. Et puis, à, je sais pas, 17, 18, 19 ans, je me retrouve sur le dos, alors que j'ai l'habitude de masturber sur le ventre, par exemple. Je me retrouve sur le dos, les jambes écartées, avec un pénis à l'intérieur de mon vagin, et je devrais avoir du plaisir. C'est quoi ce délire ? À quel moment on peut penser qu'on va avoir du plaisir juste parce qu'on est pénétré, tu vois ? Ça, c'est l'image sociale qu'on nous donne.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est une représentation de ce que doit être la sexualité, dans comment on doit faire sexualité. Et c'est super intéressant, même comme tu disais, pour les hommes. Et je voulais revenir sur ce que tu disais aussi, qui était super intéressant, cette injonction aux femmes d'être toniques, parce que tonique égale plaisir, plaisir masculin, hein, pour faire plaisir aux partenaires. Et du coup, en faisant, là, si je parle bien de l'injonction d'être tonique, hein, en faisant du bien à son partenaire, c'est au détriment de son plaisir à soi, parce qu'on a vu qu'en étant trop tonique, on peut créer effectivement pour les femmes des douleurs. Et donc, ok, on a peut-être un périnée tonique, un vagin étroit comme les hommes aiment, et qui peuvent peut-être leur faire du bien, ça dépend, mais du coup, au détriment des femmes, et finalement, au détriment de la sexualité du couple.
Et c'est pour ça que parfois, ça peut créer limite des dyspareunies de friction. Moi, j'ai certains accompagnés ou certaines accompagnées qui vont, dans le cadre de leur relation sexuelle, avoir des dyspareunies qui sont dues à une trop forte contraction volontaire. Je ne parle pas d'une contraction inconsciente, hein, volontaire, pour serrer le pénis. Et en fait, à la fin, si ça dure longtemps et que c'est serré, ça crée des frictions. Et ça crée ce que j'appelle des dyspareunies de friction. Donc, c'est vraiment manque de lubrification, trop grande friction, trop grande tonicité, les organes n'ont pas la place de se laisser aller, n'ont pas la place de s'écouter, de s'entendre, de se caresser, de ce machin. Non, ça frotte comme une boîte d'allumettes, quoi, tu vois. Enfin, on a l'impression que ce serait comme une allumette, quoi. Ça frotte et ça fait de l'effet quand ça frotte.
Ouais, ça brûle, quoi.
Ça brûle, c'est ça, ça brûle.
Ouais, ouais. Ouais. Je ne connaissais pas le terme dyspareunie de friction. Et du coup, s'il y a des personnes qui écoutent et qui se retrouvent là-dedans, hein, qui réalisent « Ah oui, en fait, c'est ce que je fais dans ma sexualité », quels peuvent être les conseils pour justement arriver à se détendre et finalement en profiter peut-être d'une manière différente ?
première chose, je pense qu'on sera d'accord, toi et moi, là-dessus. Enfin, je ne veux pas parler en ton nom, tu me diras ce que tu en penses, mais bah, la première de toutes les choses, c'est que chacun est responsable de son plaisir. Donc, c'est pas moi qui fais du bien à mon partenaire avec ma super technique magique. C'est mon partenaire qui est dans une disposition psycho-émotionnelle suffisante pour avoir du plaisir. Déjà, ça, c'est important de bien l'intégrer. Bien intégrer aussi les représentations. de bien intégrer les représentations dont on a parlé, c'est-à-dire que un pénis, c'est rien d'autre qu'une éponge remplie de sang. Faut arrêter d'en faire un truc magique hyper puissant. Enfin, regarde la représentation mythologique, Osiris, Priap, etc. Enfin, c'est des représentations même pornographiques, quoi. Le pénis, il est dur, il est puissant. Bon, ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, on peut peut-être se calmer un peu là-dessus. Donc le pénis, c'est une éponge remplie de sang. Un pénis, c'est quelque chose de fragile. Comprendre ça. Un pénis, c'est fragile. Je tire dessus, je peux faire une rupture du frein. Si je le plie dans un sens, je peux faire un hématome interne. Si je fais trop de friction, je peux créer des dyspareunies. Enfin, c'est fragile, un pénis. Et de l'autre côté, on va avoir un périnée. On va avoir un vagin, on va avoir une vulve qui est capable de merveilles orgasmiques. Et l'idée, ça va être de changer aussi cette représentation-là en se disant, tiens, mon périnée, en tout cas dans le cas des femmes cis, il est biologiquement fait pour faire passer un bébé. Et les hormones qu'on a lors de l'accouchement, comme tu l'as déjà pu le dire plein de fois, c'est les mêmes que dans le cadre de rapport sexuel. Donc, plus on se détend, et plus ça se passe. Voilà. Donc, ce que j'aurais à dire d'une manière simple et courte, ça serait... on se relâche, on se détend, on arrête de mettre des enjeux monumentaux dans la sexualité, c'est censé faire plaisir, c'est pas censé être quelque chose qui est de l'ordre de l'injonction. Si ça fait mal, c'est que c'est mal fait. Donc, on se relâche, on se relâche, on se relâche, on se fout la paix, on fout la paix à son partenaire. La priorité, c'est de passer un bon moment. C'est ça. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Est-ce que t'aurais quelque chose à apporter?
Par rapport à ça, par rapport aux dyspareunies de friction, juste pour reprendre ça, effectivement, déjà de prendre conscience de ça, qu'en fait, on a le périnée consciemment. Alors ça, généralement, quand on fait consciemment, on a conscience de ce périnée-là, mais de se dire, est-ce que là, ça, si j'apprends à le relâcher, est-ce que moi, ça peut me faire du plaisir aussi? Et que c'est OK si ça peut prendre un peu de temps avant de ressentir des sensations, puisqu'on a été... On s'est habitué à avoir cet acte sexuel pénétratif en étant contracté. Donc, on l'associe à du plaisir si jamais c'est le cas. Et du coup, quand on va le faire plutôt en mode relâché, détendu, au début, on peut se dire « Ouais, non, mais là, je sens plus rien et je commence à paniquer. Et en fait, j'ai perdu mes sensations. » Et donc, c'est tout un travail aussi sur les sensations pour arriver. Elles peuvent prendre du temps. Ça va être de l'exploration, ça va être effectivement de mettre du lubrifiant si ça commence à brûler aussi. Je voulais revenir aussi sur le pénis où tu parlais de pénis fragile. Alors fragile, du coup je crispais un petit peu, mais tu as raison, mais je rajouterais quand même sensible aussi, pénis sensible, parce que les hommes aussi vont dire, non mais moi si on met pas de la pression, si ça va pas vite, je ne sens rien, mon pénis c'est comme s'il n'était pas attaché à une émotion non plus, alors qu'il peut être sensible et du coup sensoriel et du coup être réceptif à toutes sortes de pressions et de stimulations. Et comme tu disais, les hommes ont besoin aussi d'explorer d'autres manières d'accueillir les sensations.
L'éducation sensorielle commence quand on est bébé, commence quand on est enfant. Plus on empêche un enfant de se toucher, d'expérimenter différentes sensations, et plus ça fera un adulte qui aura des problèmes de sensibilité. La peau est un organe qui s'éduque, et des sensibilités, neurologiquement, ça a un impact, et il va y avoir plein de sensibilités différentes. Par exemple, ça ne va pas avoir le même impact sur mon cerveau, le toucher appuyé, tu vois, imaginons que j'ai un toucher appuyé sur de la peau, que le toucher tout doux et un peu comme une caresse, comme une plume, tu vois. Ça ne va pas déclencher la même réaction dans mon cerveau. Donc si j'éduque mon pénis, mon gland, mes testicules, mon bassin, à faire toujours la même chose, d'une manière mécanique répétitive... je ne vais pas avoir la même sensibilité que si je l'éduque de plein de manières différentes. Par exemple, une masturbation humide en rajoutant du lubrifiant, une masturbation en se frottant contre quelque chose, une masturbation toute douce en prenant son temps, une masturbation peut-être plus énergique, etc. Et en faisant de la nuance, quoi. Et pour ça, c'est vrai que les femmes cis sont comment dire, parfois c'est comme si les injonctions sociales leur permettaient parfois une fenêtre un peu plus ouverte sur les types de masturbation, parce que c'est quelque chose dont on fait beaucoup la publicité. Dont on fera peut-être, dont on fait peut-être moins la
c'est
publicité
très pour les. En ce moment.
Voilà, c'est ça. Et puis j'imagine que c'est extrêmement rentable aussi quand on vend des sextoys. Mais.
Et l'éducation sensorielle, quoi. Donc, ouais, tu parlais de quelque chose de super intéressant, l'éducation sensorielle. Et donc, on s'éduque, c'est un apprentissage des petits. Et pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas forcément eu d'exploration corporelle ou même par rapport à l'entourage, les parents qui n'ont pas forcément fait beaucoup de câlins ou de toucher physique, vous inquiétez pas parce que ça s'apprend même dès aujourd'hui, même si ça fait 30-40 ans que vous l'avez pas fait. Mais ça prend du temps et c'est OK aussi de prendre du temps dans sa sexualité par rapport à ça. Et j'avais noté autre chose aussi. Ah oui, tu parlais de ces sensations-là, de venir explorer. Et souvent, j'ai l'impression, dans les représentations, on a une représentation hiérarchique en termes de sensations où il y aurait une sensation, généralement celle qu'on va définir comme l'orgasme, une sensation supérieure à toutes les autres. Alors que moi, souvent, je dis, en fait, on a une palette de sensations et c'est pas hiérarchique. Il n'y a pas de sensations qui doivent être vues de manière verticale, mais plutôt horizontale et d'explorer toute cette palette de sensations. Qu'est-ce que tu en penses de ça ?
J'aime beaucoup, beaucoup ton approche. Je ferai le parallèle avec... moi, ce que j'ai tendance à expliquer, c'est que la sensibilité, tu sais, c'est un peu comme un diagramme camembert, quoi. En fait, si j'exprime ma sensibilité toujours de la même façon, bah, c'est comme si je prenais une petite tranche du camembert, je sais pas, 20% par exemple, et en fait, toute ma sensibilité ou toutes les émotions que je peux dégager dans le cadre sexuel, parce que ce qui fait qu'on a du plaisir à avoir un rapport sexuel, c'est la quantité et la qualité des émotions et de la sensibilité que je peux avoir dans ce cadre-là. Sinon, c'est juste de la mécanique, hein, c'est pas plus intéressant que de se frotter les mains. Se frotter les organes génitaux, là où c'est intéressant, c'est la part émotionnelle qu'il y a dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu mon cheval de bataille.
Pour certaines personnes, ouais, c'est pas tout le monde.
C'est vrai. C'était quoi ta question ? Excuse-moi.
Oui, je sais plus. Si. Je te parlais justement de... Plutôt que de hiérarchiser les sensations, est-ce qu'on peut les voir comme une palette d'outils et les explorer de manière horizontale sans se dire que je dois absolument atteindre une sensation pour que cette sensation-là soit, selon ma représentation, un orgasme ?
Totalement d'accord avec toi, pour deux raisons. La première, c'est que attention aux injonctions et aux exercices pratiques trop précis, trop limités. Parce que plus on vous donne des exercices trop précis, trop limités, avec des cadres hyper pointus, plus vous avez de chances d'échouer. Et quand vous échouez, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez une mauvaise image de vous. Donc, c'est pas ça qui va vous aider à aller mieux ou à mieux jouir, si je peux dire, ou à avoir plus de plaisir de manière générale. Donc, bienveillance, tolérance, cadre extrêmement souple et exploration la plus à votre rythme possible. Et puis, le second point, c'est que effectivement, il n'y a pas de raison qu'il y ait une sensation qui soit supérieure à une autre. Alors, on peut avoir un goût particulier pour une sensation. Je peux aimer qu'on me touche à tel endroit, peut-être un peu moins à tel endroit, mais exactement... Enfin, tu sais bien, en sexologie, on aime bien faire des comparaisons entre la sexualité et l'alimentation. Il y a des auteurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, genre Pasini, par exemple, qui a beaucoup, beaucoup travaillé dans Nourriture et Amour, sur le lien entre la sexualité et l'alimentation. Vous allez éduquer votre palais, à la qualité d'un vin, à la qualité d'une alimentation particulière. Et même si c'est pas l'alimentation que vous avez eue quand vous étiez petit, peut-être que vous pouvez découvrir plein de types d'alimentation, plein de types de mets, plein de types de cuisine. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Il faut goûter, il faut tester, il faut avoir le loisir de se dire, tiens, je connais pas, peut-être que j'aimerais goûter, tu vois ? Et ça, je pense que ça peut vraiment offrir une grande curiosité. Et plus on est curieux et bienveillant, parce que si on est curieux et malveillant avec soi-même, c'est compliqué. Donc si on est curieux et bienveillant avec soi-même, c'est mieux. Et plus on va pouvoir augmenter un peu le panel de ses sensibilités et avoir des milliers d'occasions d'avoir beaucoup de plaisir dans chacune de toutes les choses du quotidien, et pas que dans la sexualité, dans vraiment toutes les choses du quotidien. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, un sexologue, c'est quelqu'un qui s'occupe de la jouissance de manière générale, pas que avec des organes génitaux, quoi. C'est quelqu'un qui parle de c'est quoi votre rapport au plaisir, c'est quoi votre rapport à la jouissance dans votre vie tout court, pas que sous la couette.
Non, parce qu'en plus on voit l'impact que ça peut avoir sur les plein d'autres aspects de la vie. La sexualité, c'est des fois ça peut être une porte d'entrée, et des fois c'est ce que je dis, de travailler sur tous les autres aspects vont aussi aider par rapport à la sexualité, et des fois de travailler sur la sexualité vont aider sur d'autres aspects de sa vie autres que la sexualité. J'aime bien ce que tu disais sur le goûter à tout. Et ça demande aussi du coup de... Parce que tu parlais de goûter, de prendre le temps. Et aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. Et donc, pour les personnes, c'est aussi du coup un apprentissage ou un désapprentissage. Mais non, un apprentissage. Et des fois, c'est pour ça que c'est important, intéressant d'avoir un accompagnement sexothérapeutique pour apprendre en fait à justement qu'est-ce que la sexualité, à désapprendre le fait que tout doit aller vite, tout doit être dans la performance, tout doit être dans quelque chose de jouissif avec un goal, un objectif. Et parce que tu vois, tout ce que tu disais de goûter, etc., moi ça me parle, mais pour beaucoup, il y en a qui vont se dire non, mais c'est pas ça la sexualité, ou qu'est-ce que c'est, enfin, c'est ennuyant si on fait ça, faut que ça aille vite, plus ça va vite, plus il y a des sensations en fait.
Oui, comme on parlait tout à l'heure, je te disais la guerre des orifices, il y a un peu aussi la dictature de la jouissance, quoi. Ça ferait partie un peu des petites punchlines qu'on peut avoir là-dessus. Et pour moi, c'est l'impact à la fois merveilleux et à la fois délétère de la psychologie positive. C'est-à-dire que la psychologie positive va poser la question du qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif à développer, ne pas s'intéresser qu'aux pathologies, qu'aux problématiques, s'intéresser aussi aux choses qui vont bien. Mais la psychologie positive, passée dans le rouleau compresseur du néolibéralisme, ça donne le fait qu'on vous fait croire que si jamais vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. Si jamais vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est que vous n'avez pas fourni assez d'efforts. Si jamais vous ne vous aimez pas, c'est que vous ne vous êtes pas regardé comme il faut. Et vous devez vous aimer à tout prix, vous devez être incroyable, vous devez être merveilleux, vous devez être unique, vous devez jouir, vous devez... Oh, putain, mais... Oh là 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 là, moi ça me fait peur. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de pleurer quand j'en ai envie, quoi. J'ai pas le droit de... En fait, c'est à l'inverse de la sexualité, enfin de l'érotisme, pas de la sexualité, de l'érotisme, quoi. Donc vraiment la science et l'art du plaisir, quoi. C'est vraiment à l'inverse de l'érotisme et du fait de prendre le temps, tu vois, de aussi de se poser la question du pourquoi on fait les choses, comme on en avait déjà parlé tous les deux. Est-ce que je fais ce que je fais parce que j'en ai envie, ou est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que je devais le faire? Ça, c'est la question essentielle que je pose aux personnes que j'accompagne qui vont avoir un vaginisme ou une dyspareunie. Vous voulez, ok, d'accord, vous voulez pratiquer une circlusion, oui, bon, d'accord, ok, mais vous voulez le faire parce qu'on vous a dit de le faire, vous voulez le faire parce que lui, il en a envie, vous voulez le faire parce que vous avez envie de le faire au plus profond de vous-même. Et moi, je ne travaille pas si c'est juste lui qui a envie. Dans ce cas-là, c'est lui qui vient me voir en consultation, parce que c'est lui qui a un problème.
Voilà. Bah oui, cette question en fait de désir, et d'où le premier épisode de ce podcast qui est vraiment sur le désir et comment reconnaître son désir. Donc je vous invite à l'écouter si justement en entendant les paroles de Tristan vous dites oui, mais enfin je sais pas vraiment ce que je veux, ou je sais pas comment l'affirmer. Écoutez l'épisode numéro 1 sur le désir. Tristan, est-ce qu'il y a autre chose? J'ai une dernière question, la question phare de ce podcast, mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport aux représentations?
Oui, le fait de comprendre que toutes ces représentations, c'est l'image qu'on a de soi, c'est l'image qu'on a des autres, mais c'est pas la réalité. Imago, fantasmos, toutes ces origines gréco-latines nous font dire que ce sont des images, des fantasmes, des fantômes, sous-entendus. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le concret. Le concret, c'est vos sensations, le concret, c'est vos émotions, le concret, c'est ce que vous ressentez dans votre chair en priorité. Et même si je vais avoir l'image d'un pénis surpuissant, par exemple, bah, du moment que j'arrive à bander, ça va, mais si un jour j'arrive pas à bander parce que, je sais pas, j'ai un problème dans ma vie, j'arrive pas à bander, bah là, tout d'un coup, c'est le drame. Et dans ce cas-là, si jamais votre image ne correspond pas à la réalité du terrain, ou si jamais l'image est trop dure, ou au contraire, complètement idéalisée, il va y avoir de la souffrance. L'idéal, c'est que l'image qu'on puisse avoir de soi soit le plus proche possible de la réalité émotionnelle. Sous-entendu, l'amour de soi en priorité, avant l'image de soi. Donc, moins d'ego, moins d'image, plus de sensations, plus de d'interoception. Donc, interoception, c'est le fait de questionner les sensations à l'intérieur de son corps, plus d'être et moins de faire, quoi. Voilà, c'est le mot de la fin, plus d'être et moins de faire, peut-être. Ah oui, et puis, c'est ce que je dis à la fin de chaque intervention que je fais. Pardon, c'est ce que je dis à la fin de chaque intervention que je fais, c'est foutez-vous la paix. Voilà, foutez-vous la paix.
Foutez-vous la paix, foutez-vous la paix. Ça sera peut-être la réponse à ma dernière question. Mais en tout cas, tu as super bien résumé cet épisode. C'était très clair, très concis. C'était super intéressant. Et donc, ma dernière question, c'est si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou voire de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait ? Se foutre la paix ?
Comme la sexualité est politique et culturelle, et qu'elle vous est imposée par la culture à laquelle on appartient, par votre famille, par la politique actuelle, par l'industrie du porno, eh bien, choisissez d'inventer la vôtre. Et en inventant la vôtre, vous allez pouvoir avoir une image, votre image à vous, qui correspond à vos besoins, à votre sexualité personnelle, et pas celle qu'on vous vend. Voilà, ça serait la fin.
Ouais, merci, je rejoins tout à fait cette chose à retenir qui est vraiment la plus importante, en fait, de vous approprier, d'inventer la sexualité qui vous correspond aujourd'hui surtout, le plus important. Tristan, merci beaucoup pour ces échanges. Je mettrai dans les notes de l'épisode où est-ce que les personnes peuvent te retrouver pour te poser des questions, consulter avec toi. Je te dis à très vite, à bientôt Tristan.
Merci beaucoup à toi, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, à bientôt.
Je suis toujours fan des échanges qu'on a avec Tristan, c'est vraiment chouette, ça permet d'aller vraiment en profondeur de nos représentations, de nos définitions, du vocabulaire qu'on utilise, et de penser vraiment la sexologie, et de penser vraiment la sexualité. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que c'était des notions qui étaient toutes nouvelles pour vous ? Est-ce que ça vous a apporté des manières de penser différentes ? Est-ce que vous avez dit, tiens, ça j'y avais jamais pensé et je vais m'y mettre ? Voilà, dites-moi un peu tout ça sur ma page Instagram Camille Parle Sexe ou même avec des étoiles, des commentaires sur vos plateformes d'écoute, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide à référencer le podcast et ça aide à le rendre visible. Donc je vous encourage vivement à le faire si vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, n'hésitez pas aussi à me partager les invités que vous aimeriez entendre sur ce micro. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.